Il y a un film qui est sorti il y a quelques années déjà et qui s'intitulait « Mes nuits sont plus belles que vos jours ». C'est aussi un roman écrit par Raphaël Billedoux. Je me demande si elle a... C'est un nom d'artiste ou Raphaël Billedoux. Alors, j'ai pas vu le film et je pense que j'ai rien manqué. Mais j'ai trouvé le titre assez intriguant. « Mes nuits sont plus belles que vos jours ». Comment la nuit pourrait être plus belle que le jour ? Alors, tout dépend de ce que l'on fait la nuit. Mais il me semble qu'en général, nos nuits peuvent être un peu difficiles. Les fins de nuit, surtout. On va dire entre 3 et 6 heures du matin, ou 2 et 6 heures du matin, c'est souvent là que l'on fait les mauvais rêves ou que les angoisses apparaissent. Et Yvonne en a parlé tout à l'heure. Qu'elle nous réveille aussi, et c'est ça dont Yvonne a parlé tout à l'heure. Et j'en suis témoin que vers 4 heures du matin, quelqu'un se réveille à côté de moi. Et elle nous empêche, ces angoisses, de nous rendormir. Et alors, notre journée est au moins aussi mauvaise que la nuit. Alors, bien sûr, on peut se sentir angoissé au milieu de la foule et au milieu de la journée, seul, en pleine lumière extérieure. Mais il semble que durant la nuit, les angoisses et les peurs prennent des proportions effrayantes. Et peut-être que nous pourrions nous reconnaître dans ce psaume, le psaume 91, qui parle des terreurs de la nuit. Même les effrois de la nuit. Mais avec une promesse à la clé quand même de ne plus avoir à les craindre. Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni les terreurs de la nuit. En fait, ce verset met un peu à égalité le jour et la nuit pour ce qui est des peurs. Mais moi, je me dis qu'au moins les flèches, on les voit venir. Il y a dans la Bible, paraît-il, je n'ai pas compté, mais il y a des statistiques sur la Bible, 83 textes qui mentionnent la nuit ou qui parlent d'histoires qui se passent la nuit. Et il y a souvent un côté effrayant, mais il semble qu'il n'y ait pas que cela non plus dans la nuit. Et la première de ces histoires, une des plus remarquables, c'est l'histoire de Jacob, qui est le deuxième fils d'Isaac, et qui a pris la place du premier, qui s'appelle Ésaü. Et alors qu'il est en route vers son oncle Laban, il va aller se coucher, il prend une pierre comme oreiller, bon, c'est pas super comme confort, mais il s'endort pour une nuit tranquille. Tranquille ? Pas vraiment. Cette nuit-là, il fait un rêve, le rêve d'une échelle qui relie la terre et le ciel. Et il y a un trafic absolument très important sur cette échelle. Et c'est une nuit très agitée aussi, comme le trafic pour Jacob, avec toutes les peurs qui vont avec la nuit. Et Jacob a de quoi alimenter ses angoisses et ses peurs, puisque sa vie est celle d'un manipulateur arriviste invétéré. Et si de jour il ne laisse rien paraître, la nuit c'est peut-être autre chose. Mais Dieu profite de cette nuit pour lui rappeler la promesse qu'il a faite à son grand-père Abraham, au grand-père de Jacob, Abraham, et qui se continue en toi, Jacob, dit Dieu. Et nous avons la confession nocturne de ce Jacob. Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et il appela cet endroit Bethel, maison de Dieu. Beth, maison, El, Elohim, Dieu. Il s'en passe des choses cette nuit. Et plus tard, toujours la nuit et toujours pour Jacob, il y aura ce combat avec un étranger, un combat étrange où il nous est dit « Jacob demeura seul avec un homme ». Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. En se couchant, cette nuit-là, Jacob savait qu'il allait devoir faire face à son frère Ésaü, qu'il a trompé depuis de longues années. Il s'est couché avec cela en tête et pendant la nuit, il lutte avec quelqu'un qui ressemble à un ange de l'Éternel, Dieu lui-même. Un combat qui dure toute une nuit et Jacob est déclaré vainqueur, vainqueur de Dieu, ou plutôt vainqueur de lui-même et de ses vieux démons. Et il appelle ce nom Péniel. C'est-à-dire la face de Dieu, Panim, parce qu'il a vu Dieu face à face. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Tout cela encore la nuit. Il a vu Dieu face à face durant la nuit et au petit matin, il va se réconcilier avec son frère. Alors on ne sait pas si les nuits de Jacob sont plus belles que ses jours, mais en tout cas, il s'en passe des choses durant les nuits de Jacob. C'est aussi la nuit que Samuel, le petit Samuel, enfin, il avait au moins 12 ans, peut-être même 20, va entendre l'Éternel s'adresser à lui. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et Samuel répondit, « Me voici », et plus loin dans le texte, « Ton serviteur écoute ». La lampe est celle du chandelier d'or du lieu saint qui devait brûler toute la nuit. On est donc en fin de nuit. Mais avant l'aube, pour Samuel, l'appel de Dieu se passe la nuit. Il s'en passe des choses la nuit. Un peu plus tard, la nuit des bergers. C'est une nuit que des bergers furent surpris en plein pâturage par un ange qui leur annonce une bonne nouvelle. Dans la ville de David, il s'est passé quelque chose, une naissance porteuse d'espoir. Ils eurent peur, les bergers, pas tant de la nuit, mais plutôt de l'intervention d'en haut en leur faveur, alors qu'ils ne sont qu'au bas de l'échelle sociale de petits bergers. Un peu plus tard, c'est la nuit des disciples. Alors qu'ils sont dans la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin, et qu'ils rament depuis le soir, parce que Jésus les a envoyés ramer, contre des vents et des courants contraires, ils sont épuisés. Les disciples, alors, voient apparaître dans la nuit, dans le noir, leur maître qui marche sur les eaux. Ils ont peur car ils croient voir un fantôme. La nuit, tout prend des proportions extravagantes. Mais Jésus les rassure. « N'ayez pas peur, c'est moi. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Il s'en passe des choses la nuit. Et puis, la nuit de Jésus, il y a eu cette nuit dans le jardin de Gethsémané, une nuit d'angoisse pour Jésus, où il lutte avec ses peurs, et le texte nous montre que Jésus n'est pas étranger aux terreurs de la nuit du psaume 91. Il les vit comme nous, ces angoisses de la quatrième veille ou de la troisième. Et lorsqu'il demande à ses disciples de veiller avec lui, Jésus montre aussi son besoin d'avoir des amis autour de lui, avec lui dans la nuit, non pas seulement pour veiller avec lui, mais pour veiller sur lui. Alors qu'il vit cette nuit d'angoisse et de questionnement. Et on sait que les disciples ne pourront pas répondre à la demande de Jésus, et Jésus reste seul la nuit au jardin de Gethsémané avec ses angoisses. Mais mystérieusement, et finalement, après avoir prié 3 fois pour que cette coupe puisse s'éloigner de lui, Jésus va retrouver la force d'accepter la volonté de Dieu pour lui et va retrouver sa mission, le sens de sa mission, qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et il est prêt à boire cette coupe de jugement dont on a parlé vendredi soir lors du Vendredi Saint, cette coupe de jugement qui l'attend à la croix. Il est prêt à porter sur lui tous les péchés du monde. S'en passe des choses la nuit. Alors comment Jésus a-t-il pu trouver cette force? Eh bien certainement dans cette foi qui est exprimée dans le psaume 121 que Jésus connaissait certainement, assurément même. Ce psaume qui dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde Israël. » L'Éternel est celui qui te garde. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Le mot garder revient 6 mois dans le psaume 121. Il peut être traduit par veiller sur, prendre soin. Le gardien de notre âme. Et il est évident que Jésus, dans cette nuit de terreur, a pu retrouver en son Père celui qui le garde, celui qui ne sommeille ni ne dort, le gardien de son âme, qui ne permettra pas que son pied chancelle. En un mot, Jésus a compris, alors qu'il se sentait tout seul, qu'il n'était pas seul du tout. Il avait quelqu'un avec lui qui veillait sur lui. Alors vous demandez peut-être, Quel est le rapport entre toutes ces nuits et la nuit et Pâques ? Et en particulier avec le dimanche de Pâques et la résurrection, où normalement on parle de lumière, avec ces diapos toutes noires. Eh bien, le lien est direct. C'est qu'à Pâques aussi, Dieu fait son œuvre la nuit. C'est un pasteur allemand qui me l'a fait remarquer il y a quelques années. C'était le président des églises évangéliques libres d'Allemagne. Que lorsque les femmes arrivent au tombeau à l'aube, comme on l'a si bien chanté, le tombeau est déjà vide. Et donc que Jésus est déjà ressuscité. Et même si on ne peut pas dater la résurrection très exactement, on doit conclure que Jésus est ressuscité la nuit. C'est pourquoi j'ai mis sur l'écran et sur votre memento la nuit de la résurrection, alors que bien souvent on parle du matin de la résurrection ou de l'aube de la résurrection. Et effectivement, la découverte par les femmes et ensuite par les apôtres a lieu le matin, et c'est comme un jour nouveau, porteur de belles promesses qui s'annonce. Tout cela est vrai, que cette lumière de la résurrection va éclairer la nuit de nos peurs. Oui, trois fois oui, mais la résurrection a eu lieu la nuit, parce que Dieu œuvre la nuit, parce qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Et Dieu travaille dans nos nuits également. Elles sont aussi des zones de transformation, de résurrection, d'illumination, des temps où la présence de Dieu, comme pour Jacob, devient palpable, où nos nuits deviennent des Bethel ou des Péniel, où, comme Samuel, nous prenons une décision pour lui et nous recevons son appel. Nos nuits ne sont pas si ténébreuses que cela. Et là, je cite un verset du psaume 139, magnifique, qui parle de quelqu'un qui essaye de fuir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et une autre version dit, pour le verset 12, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Dieu œuvre dans nos nuits les plus sombres. Alors quand je parle de ces nuits, je ne parle pas des nuits horaires, c'est-à-dire entre 23h et 7h du matin pour donner une moyenne, mais on parle de ces nuits, et Yvonne, sans me prévenir, en a déjà parlé, où on ne voit rien bouger dans sa vie, où tout semble perdu d'avance, où la souffrance prend le pas sur l'espérance, ces périodes où on se sent si seul, où même Dieu semble absent de la scène de sa vie, où nos questions et nos interrogations sont plus nombreuses que nos réponses et nos certitudes, eh bien Dieu travaille dans ces nuits-là aussi. Dieu fait son œuvre. Et pour nuancer, je distinguerai deux sens à ce travail nocturne de Dieu. Dieu travaille dans nos nuits, cela veut dire que Dieu travaille secrètement, mystérieusement. Et deuxièmement, Dieu travaille dans nos nuits, ça veut dire que Dieu travaille alors que nous pensons que rien ne se passe. Dieu travaille en secret, mystérieusement. Dieu travaille dans l'ombre de nos vies. Comme pour Jacob, on ne comprend pas bien ces deux histoires de l'échelle et du combat contre cet étranger. J'ai déjà parlé ici même, il y a deux semaines, de ce combat de Jacob contre Dieu. Et une personne m'a fait remarquer après coup qu'elle n'avait jamais compris cette histoire et que mes explications ne l'avaient pas aidée. Et je la comprends, parce que moi-même, je ne la comprends pas tout à fait. Les deux histoires, l'échelle et la lutte de Jacob contre cet homme. Il y a quelque chose de mystérieux dans ces histoires qui n'est pas possible de cadrer et d'expliquer. Ça se passe la nuit entre rêve et réalité de façon un peu mystérieuse. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu transforme, non pas jour après jour, mais nuit après nuit, ce Jacob qui a pris un mauvais départ dans la vie. Et Dieu le travaille, nuit après nuit, dans un corps à corps, dans un cœur à cœur. Et il le fait non pas en pleine lumière ni en pleine évidence, mais dans les nuits de Jacob. Et de la même manière, Dieu fait son chemin mystérieusement et secrètement dans la vie de ceux qui lui ouvrent ou qui ouvrent la porte de leur intérieur, même petitement, même timidement. Et cette œuvre de Dieu ne se voit pas de l'extérieur, ne s'explique pas avec des mots, ne s'étale pas sur les réseaux sociaux, mais il est à l'œuvre. J'ai trouvé un poème de quelqu'un que je ne connais pas, Claude Tricoire. Mais il écrit à partir du psaume 121. Et il parle de la part de Dieu. « J'aime la nuit, dit Dieu. La nuit, c'est mon lieu de travail. Je peux veiller sur ma création. J'aime la nuit, dit Dieu. La nuit, c'est le lieu de mon repos. Je regarde dormir les hommes. Je murmure dans leur cœur mon amour inconditionnel. Mais doucement. J'aime la nuit, dit Dieu. La nuit, c'est le lieu de mon attente. J'attends la réponse à mon cri. Je t'attends. J'aime la nuit, dit Dieu. La nuit, c'est le temps du retour. Comme un matin de Pâques. J'attends l'heure du grand rendez-vous. J'attends l'heure des Pâques éternelles. J'aime la nuit, dit Dieu. La nuit, c'est le grand jour. Le jour des noces éternelles. Il y a une nuit, il y a un matin, et je vois que cela est très bon. Et j'aime bien la fin, cette référence à la création. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu était à l'œuvre, dans sa création, dans sa recréation, dans la résurrection. Et le deuxième point, quand on dit que Dieu travaille dans nos nuits, cela veut dire que Dieu travaille alors qu'il nous semble que rien ne se passe. Je ne suis pas très porté sur les traditions, même chrétiennes, mais il me semble qu'entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, il y a quand même le samedi, que certains appellent le samedi saint. Et c'est, paraît-il, le jour de l'incertitude et du silence. Il ne se passe pas grand-chose. On dit que Jésus est descendu aux enfers, mais il faut bien reconnaître qu'on ne sait pas trop ce qu'il est allé y faire. Et pour les disciples, c'est effectivement un jour où il ne se passe rien. Mais en fait, c'est là où tout se passe. Le matin de Pâques se prépare dans la nuit avant Pâques. C'est quand il nous semble qu'il ne se passe rien que le Seigneur est à l'œuvre, qu'il prépare à une vie nouvelle. Je repense à ma maman partie en 2011. Après une maladie de 15 ans, mais surtout la dernière année. Et les deux dernières semaines, elle était dans le coma, dans la nuit profonde. Et ma sœur et moi l'avons veillée, surtout ma sœur, puisque ma maman était à Bruxelles, ma sœur aussi, et moi j'étais ici. Mais j'ai essayé de le faire. Et quand j'étais à son chevet, j'avais vraiment l'impression que rien ne se passait. Ma mère était dans le coma. J'essayais de lui parler, mais moi, j'arrive pas à parler dans le silence ou à quelqu'un qui ne me répond pas. Ce n'étaient pas des moments très lumineux pour moi, ni pour ma mère peut-être. Mais rétroactivement, je me dis que Dieu était de garde auprès de ma maman, dans la nuit de ma mère. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. C'est l'Éternel qui est ton gardien. Et plus que veiller, j'ai imaginé que Dieu était aussi à l'œuvre dans la vie de ma maman, lui préparant dans la nuit de son coma un corps de résurrection pour le matin. La préparant pour ce matin de sa résurrection où elle allait revêtir un corps nouveau pour une vie éternelle dans la gloire de celui en qui elle avait placé toute sa confiance et sa foi ardéchoise. Madame Simone Roustin-Gounon. Dieu non seulement veillait sur ma mère, mais il préparait ce corps de résurrection. Et Dieu nous prépare à tous, nous prépare tous à cela. quelle que soit la profondeur de notre nuit, quel que soit notre sentiment de solitude ou d'échec, il nous prépare durant toute notre vie, avec tous ces moments qui nous paraissent bien sombres, à ce matin lumineux de la résurrection. Comme pour ces femmes qui arrivent au petit matin, qui trouvent le tombeau vide et qui entendent deux étrangers un peu bizarres leur dire, un ou deux étrangers, c'est selon, leur dire, pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. C'est déjà fait. Il est déjà ressuscité. Dieu a fait son œuvre dans la vie de son Fils bien-aimé. Et cette œuvre, il veut la faire en nous. Ses fils et ses filles adoptifs. La parole nous dit que la résurrection de Jésus vient comme les prémices de nombreuses résurrections. Et vous savez que les prémices, c'est un mot qui n'existe qu'au pluriel. Vous pouvez aller vérifier dans le dictionnaire. Et ça veut dire les premiers fruits d'une récolte qui sera abondante. Et cela veut dire que comme Jésus est ressuscité, nous aussi, nous allons connaître cette résurrection. Pas une résurrection spirituelle, pas un prolongement de vie dans le souvenir de nos descendants. Non, une résurrection du corps, une résurrection de la personne, une résurrection où nous serons identifiables et personnels. Et c'est là notre espérance, et c'est à cela que Dieu nous prépare dans les nuits de nos vies. Revêtir ce corps de résurrection. Et cette espérance repose sur du solide, une affirmation qui ne laisse planer aucun doute. Il est vraiment, non pas philosophiquement, non pas idéologiquement, il est vraiment, réellement ressuscité. Je termine par une prière que j'ai trouvée dans un livre de prières. C'est la prière du veilleur, par une diaconesse et une sœur protestante de Reuilly. Elle s'appelle Daniel, sœur Daniel. Et je trouvais qu'elle allait si bien avec ce que nous venons de dire. À la fin du jour, au moment de mon coucher, Seigneur, je te confie ma maison, tous les miens, grands et petits, tous ceux qui veillent dans la nuit. Donne aux uns le repos, la sérénité aux autres. Viens, Seigneur, réconforter le malade et le décourager. Viens, Seigneur, fortifier celui que le travail a épuisé. Dans le secret de la nuit, tu visites et tu guéris. Tu renouvelles et tu relèves. Merci pour ta garde. Dans mon sommeil, tu veilles et me prépares un jour nouveau. Amen.